Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne, qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, je reçois une figure du tir sportif français, Tanguy Delaforêt. À l'âge de 7 ans, il découvre le tir lors d'une kermesse. À partir de 10 ans, une grave maladie le prive de l'usage de ses jambes. Tanguy Delaforêt ne lâche rien et remporte médailles après médailles en e-sport. En 2024, c'est l'apothéose, il devient champion paralympique à la carabine. Mais Tanguy Delaforêt est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holy Games.
Bonjour Tanguy Delaforêt.
Bonjour Cyril.
Merci d'être là sur Europe 1.
Merci à toi.
D'être dans ce superbe studio qui est le studio Coluche, qui est le studio mythique d'Europe 1. Coluche qui a, il y a de nombreuses années, fait cet appel au Resto du Cœur. Alors c'était pas ici, c'était rue François 1er, parce que là on est rue des Cévennes dans le 15e. Mais c'est super sympa d'être là pour cette émission Les Athlètes de Dieu sur Europe 1 qu'on a préparé avec Holy Games, mouvement de l'Église catholique, avec Isabelle de Châtelus, sa directrice, Constance Langatte qui sont là et qui m'ont aidé à préparer des questions pour vous. Et quand vous êtes arrivé, déjà ce qui m'a frappé, c'est la voiture. Racontez-nous cette voiture, elle a l'air d'être incroyable.
Oui, la voiture, elle est assez dingue parce que, bon, déjà pour expliquer peut-être, j'ai un handicap musculaire, neuromusculaire, qui touche l'ensemble des muscles de mon corps. J'ai très peu de force, en fait, au niveau des bras et au niveau des jambes. Et j'ai besoin de moyens de compensation. Et cette voiture-là, en fait, est complètement aménagée pour que je puisse conduire. Donc, je conduis avec un joystick qui remplace le volant.
C'est fantastique.
Et ce bijou technologique me permet d'être complètement autonome dans ma vie de tous les jours.
Et vous êtes arrivé tout seul. C'est-à-dire que vous arrivez à sortir du coffre. Et à monter sur votre machine, je sais pas ce que c'est une sorte de petite moto là. Vous avez déambulé dans les couloirs d'Europe 1, vous avez fait forte impression.
C'est un petit scooter, c'est en général les enfants adorent ce petit scooter, donc voilà, c'est depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je me balade en scooter.
Génial. Bon, ce qui est sûr c'est que Tanguy Delaforêt, vous rayonnez, vous nous avez donné un bonheur inouï lors des Jeux Paralympiques. Vous êtes vraiment un exemple de résilience et on va en parler ensemble. Alors, dans cette émission Les Athlètes de Dieu sur Europe 1, il y a une tradition. Regardez, il y a des bougies en face de vous. Et pour commencer, donc, on va vous demander de choisir une bougie. Il y a des couleurs différentes. La rose, la verte, la bleue ou la jaune.
Je vais prendre la rose.
La rose. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Chaque invité choisit une bougie, soit la bleue pour commencer, soit la jaune. La rose, pourquoi ?
Mais parce que j'ai lu, en fait, ce qu'il y avait dessus, et que je lis « Par ta victoire, grandit son éclat ».
Alors, pourquoi cette phrase vous touche particulièrement ?
Probablement parce qu'il y avait le mot « victoire », qui est un mot qui me parle, évidemment, et que cette victoire-là, finalement, j'ai pu y accéder... Pendant les Jeux Paralympiques, j'ai pu y accéder tout au long de ma carrière, mais j'ai pu également l'avoir dans ma vie personnelle. Et c'est un mot qui me parle et qui me touche beaucoup.
47 ans, une victoire effectivement dans les stades, une victoire, une apothéose aux Jeux Olympiques, mais une victoire dans la vie parce que vous êtes père de famille, parce que vous avez créé des entreprises, parce que vous avez plein d'amis, parce que vous êtes investi à Holy Games, aussi au mouvement olympique. C'est une vie extrêmement riche.
J'ai énormément de chance dans la vie. C'est vrai que plein de personnes me demandent, mais en fait, est-ce que si on avait trouvé une thérapie quelque part par rapport à ton handicap, est-ce que tu aurais voulu l'utiliser ? En fait, pas du tout. Moi, je suis très heureux dans ma vie. Je vis avec ce handicap depuis que je suis tout petit et c'est ce qui fait quelque part un peu ma personnalité, mon caractère. Et j'ai absolument pas envie de changer ma vie pour rien au monde. Donc voilà, je suis très très heureux.
Mais c'est incroyable ce que vous dites. Vous ne voulez pas changer, c'est-à-dire que si y avait un miracle qui se passait, demain vous voyez la Sainte Vierge qui vous dit « lève-toi et marche », ou « prends ton brancard et marche » comme on lit dans les évangiles, vous pourriez lui dire « non, Jésus, tu me laisses là parce que en fait, je me sens mieux ».
En tout cas, vraiment, je ne le sentirais pas du tout comme important pour moi. À chaque fois, on me parle de guérison ou ce genre de choses, et ça ne m'a jamais, entre guillemets, c'est pas que ça ne m'a pas intéressé, en fait, je trouve que c'est extrêmement important, surtout pour les jeunes aujourd'hui qui, en effet, qui sont en situation de handicap, et je trouve ça très très bien pour eux. Mais moi, j'ai une vie tellement extraordinaire, j'ai tellement été touché par la grâce à plein de moments de ma vie que Vraiment, j'en ai pas besoin et j'en ressens absolument pas le besoin.
Vous n'avez jamais demandé Tanguy Laforêt dans votre prière, Seigneur, guéris-moi ?
Ah si, je pense plus jeune, beaucoup plus jeune, mais pas du tout depuis, on va dire depuis l'adolescence, absolument pas. Mais je pense qu'en effet, ça a été un peu plus compliqué peut-être quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, presque plus quand j'étais adolescent. Mais depuis que je suis adulte, depuis que je suis autonome, sincèrement, non, pas du tout.
Tanguy Laforêt, on va justement retirer un petit peu, refaire le fil de votre vie pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et comment vous êtes arrivé à devenir le meilleur para-athlète en tir, en carabine. D'abord, alors c'est une question qu'on s'est posée en préparant cette émission avec Isabelle et Constance, c'est que le tir, c'est vraiment du sport. Je suis un petit peu vilain quand je dis ça. Mais c'est vrai que quand on regarde le tir, on se dit, bon, bah, il prend une carabine, il tire, et puis voilà. Le biathlon, c'est un peu différent, parce qu'ils arrivent, ils sont essoufflés sur le pas de tir. Et ça va, vous m'avez pas engueulé. Donc,
non, pour l'instant, j'écoute. Mais non, c'est vrai que c'est vrai que cette question sur le tir, oui, c'est un sport de précision. Et sport de précision, qui dit précision, dit concentration, dit gestion du stress, maîtrise parfaite de son corps, parce qu'on a besoin d'être absolument bien en termes de conditions, en termes de position dans son fauteuil. Sincèrement, hein, j'ai déjà testé en fait après l'entraînement. J'ai pris mon poids avant l'entraînement et pris mon poids après l'entraînement. J'avais perdu quasiment 1 kg en l'espace de 2 heures de tir. Donc oui, on peut dire quand même que le paratir ou le tir sportif, c'est quand même du sport.
Mais je disais ça pour genre poil à gratter, parce qu'évidemment on est tous d'accord pour dire que c'est un sport exceptionnel. C'est un sport qui demande, vous l'avez dit, une grande concentration. Et c'est fou comme ça peut changer. C'est-à-dire que s'il y a un petit défaut de concentration... D'ailleurs, comment vous réglez votre carabine ? Comment ça se passe quand vous arrivez sur le pas de tir ?
En fait, quand on arrive sur le pas de tir, en général, on a un quart d'heure d'essai. Ce quart d'heure d'essai permet de régler sa carabine. Mmh. Et finalement, tout au long du match, on va régler sa carabine au fur et à mesure, parce que la position peut changer, parce que la vue est un peu différente, parce que avec le stress, peut-être qu'on gère un peu moins bien le moment présent. Et donc, on va régler tout au long de l'épreuve sa carabine.
Parce qu'une carabine, c'est comme une paire de skis, faut bien la choisir, faut bien la préparer. Comment ça se passe ?
C'est énormément de temps. En général, une carabine, il faut au moins 3-4 ans pour pouvoir vraiment se l'approprier, pour pouvoir être performant avec une carabine. Moi, je suis assez minutieux dans mes réglages et j'ai passé, tous mes entraînements, je passe à régler ma carabine pour qu'elle soit optimum lorsque j'arrive en compétition.
Alors, justement, on y vient. Comment vous avez découvert le tir ?
Alors, à l'âge de 7 ans, j'ai découvert le tir lors d'une kermesse. C'était dans un village en Ille-et-Vilaine, un petit village qui s'appelle Hirodoir. Et dans ce village-là, il y avait une kermesse. Et à l'âge de 7 ans, j'ai toujours été assez passionné par le sport. Je pouvais difficilement le pratiquer. Mais je me suis dit, tiens, j'allais m'essayer un petit peu au tir à la carabine. Et j'ai remporté le concours de tir à la carabine à cette kermesse. Il fallait tirer sur des spaghettis.
c'est très original, ça.
C'est très original. Non, c'était absolument incroyable, surtout parce que c'était pour moi vraiment une découverte. Et à la sortie de cette compétition, j'ai été voir maman et je lui ai dit, mais il faut absolument que je m'entraîne et que je fasse du tir à la carabine.
C'est fou. Mais pourquoi vous étiez à cette kermesse ? Vous étiez habitué à aller dans ce village ?
Oui, parce que mon grand-père, en fait, est originaire. Toute ma famille est originaire de ce village d'Hirodoir à côté de Rennes.
Hirodoir à côté de Rennes. Donc là, il faudra y aller en pèlerinage. Hein.
Exactement.
Il faudra aller, effectivement, pourquoi pas, revenir faire une kermesse. Vous y êtes retourné là-bas ?
Ah, mais j'y retourne régulièrement. Alors, la kermesse n'a plus lieu, mais j'y retourne régulièrement.
C'est dommage, il faut relancer la kermesse, Tanguy.
Exactement. Mais peut-être qu'avec ce podcast, on pourra peut-être relancer la kermesse.
Eh bien, écoutez, comptez sur nous et sur Holy Games, notamment, qui pourrait relancer cette kermesse, donc dans ce très beau village à côté de Rennes. Tanguy de la Forêt, à l'âge de 7 ans, vous découvrez le tir, vous dites à votre maman, je veux continuer à faire du tir, sauf qu'il y a un événement qui va changer radicalement votre vie. Quelques années plus tard, on vous découvre une maladie.
Alors, c'est pas quelques années plus tard, parce qu'en fait, cette maladie, je l'ai depuis que je suis bébé.
Oui, mais sauf qu'à 7 ans,
marchais un petit peu à l'âge de 7 ans, mais déjà, j'étais en difficulté pour pouvoir marcher. Et donc, c'est une maladie vraiment de naissance. J'ai très peu marché, mais j'ai marché jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais c'est une maladie qui date vraiment depuis que je suis tout petit.
Ouais, mais ce que je voulais dire, effectivement, vous avez raison de le préciser, mais c'est à l'âge de 10 ans que ça bascule.
À l'âge de 10 ans, je me retrouve en fauteuil. Et en effet, c'est un changement radical, parce que se retrouver en fauteuil en termes de mobilité, c'est évidemment pas la même chose que de pouvoir marcher. Donc c'est un changement assez important dans ma vie, avec plein d'aménagements nécessaires pour que je puisse continuer finalement à être autonome et à faire tout ce que j'avais déjà commencé à faire, notamment être à l'école ou ce genre de choses.
Mais Tanguy Laforêt, est-ce que quand vous êtes enfant, ou à partir de quel moment vos parents et comment vos parents vous annoncent que vous êtes malade. Est-ce que vous en rendez compte tôt? Est-ce qu'il y a un premier souvenir dans votre vie où vous dites « Ah ouais, les copains, en fait, ils courent après un ballon, ben moi, je ne vais pas pouvoir faire ça ».
Non, non, parce qu'en fait, finalement, le fait d'avoir ce handicap depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été habitué à vivre avec ce handicap-là. C'est la différence avec quelqu'un qui va avoir un accident, où en effet, il passe d'un statut de valide à un statut d'invalidité. Ça n'a pas été mon cas. J'ai toujours vécu avec ce handicap. C'est ma normalité, en fait, mon handicap, depuis que je suis jeune. Donc, j'ai pas été bloqué par rapport à ça. Et après, pour tout ce qui est sport, à l'âge de 5-6 ans, en effet, tous mes amis étaient dans la cour de récréation à jouer au football. Et mes parents me laissaient, en fait, m'essayer, même si j'étais déjà en difficulté pour pouvoir marcher. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai marqué un seul but dans ma vie au football, parce que je suis quand même un grand passionné de football. Je suis tombé en arrière, ma jambe était en l'air, et le ballon a rebondi sur mon pied, j'ai fait un retourné, et c'est le seul but que j'ai marqué dans ma vie.
Le plus beau. Et sans doute. Alors, je peux vous dire que, voilà, j'en ai marqué quelques-uns, des buts avec les copains, mais alors, la retourner, jamais. Donc bravo Tanguy. Stade Rennais, c'est votre club de cœur ?
Bien sûr, ouais. C'est mon club de cœur. Jusqu'à la fin de mes jours, je suivrai le Stade Rennais.
Ah, c'est génial. Tanguy de la Forêt sur Europe 1, on a évidemment envie de vous poser cette première question qui est encore plus intime. C'est la question de la foi hein, dans les athlètes de Dieu. Quand est-ce que est intervenue justement cette foi ? Et est-ce que ça a été aussi un pilier pour vous à partir du moment où il y a cette maladie, où il y a le tir qui rentre dans votre vie, dans votre carrière ? Comment ça se passe ? Comment le Seigneur, il agit ?
Je pense que la foi est un pilier qui est arrivé assez tardivement chez moi. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas la foi déjà au départ. J'ai été élevé dans une famille très croyante, très pratiquante. J'ai été baptisé à l'âge d'un mois, un mois et demi. Donc j'ai toujours été baigné dans l'Église. Et finalement, j'ai suivi un peu comme beaucoup d'enfants, finalement, ce que faisaient mes parents. Donc j'allais à la messe très régulièrement. J'ai suivi des cours de catéchèse. J'ai eu, on va dire, toute une évolution dans la foi, avec une période peut-être plus compliquée qui était l'adolescence, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte peut-être de difficultés que j'allais rencontrer avec mon handicap. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vraiment j'ai la foi ? J'avais pas mal de doutes par rapport à ma croyance. Et à l'âge adulte, et peut-être au moment où finalement j'ai découvert que je pouvais être autonome et me débrouiller tout seul dans la vie, il y a vraiment eu un changement radical chez moi. Et je pense qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu un pilier.
Tanguy, on a encore 3 bougies à allumer virtuellement dans ce studio. Quelle autre bougie souhaiteriez-vous prendre désormais ?
On va prendre la verte, dans l'ordre.
Pas mal. Alors la verte, quelle est la phrase ?
Alors les derniers seront les premiers.
Les derniers seront les premiers. Vous avez été parfois un peu dernier, mais souvent premier dans votre vie sportive.
Oui, mais on peut dire que quand on est quatrième, pour moi c'est presque, je ne vais pas dire que c'est une dernière place, mais je ne la considère pas comme une première place. J'étais déjà dernier plein de fois, premier en tout cas dans mon cœur, une vraie fois, qui était celle des Jeux Paralympiques, où ça a été vraiment pour moi incroyable comme moment. Mais surtout, les derniers seront les premiers, c'est quelque chose qui me touche, qui m'a toujours beaucoup marqué à chaque fois en messe, par exemple, lorsqu'on dit justement les derniers seront les premiers. Je trouve que c'est beau, c'est vraiment important. C'est pas important d'être premier, en fait. C'est absolument pas important d'être premier. Ce qui est important, c'est d'être soi, qu'on soit premier ou dernier. C'est vraiment pas pour moi une priorité.
À l'église, quand vous allez à la messe, vous allez devant ou derrière ?
Plutôt derrière.
Ah ! Et pourquoi ?
Plutôt derrière, j'ai besoin de prier en fait, mais d'être un peu en retrait quand je prie. J'aime bien être derrière parce que je pense que j'ai une vue globale également sur tout ce qui se passe au niveau de la célébration. Mais rien que pour anticiper des petites choses, c'est tout bête, hein, mais par exemple pour aller communier, si je suis devant, en fait, je ne peux pas voir exactement le cheminement pour pouvoir y aller. En étant derrière, en fait, j'ai vraiment cette vue très très large. Et puis j'aime pas être trop sur le devant. J'aime pas être trop sur le devant. À l'église, j'aime pas être trop sur le devant de la scène non plus dans le cadre du sport.
Et pourtant, vous avez été sur le devant de la scène en 2024. Alors là, il faut revenir sur cet événement, mais qui a été magique, comme dirait notre ami Jacques Vendroux. Magique parce que vous êtes devenu champion paralympique, mais il a fallu être patient parce que vous avez disputé de nombreuses Olympiades. Racontez-nous ce cheminement et comment vous avez réussi justement à, malgré les événements, à vous dire bon, c'est pas pour maintenant, mais un jour, j'y arriverai.
Oui, je suis entré en équipe de France en 1997 et j'ai fait mes premiers Jeux à Athènes en 2004 et j'ai fait tous les Jeux paralympiques qui suivaient après Athènes jusqu'à Paris 2024 avec des résultats plutôt intéressants mais plutôt décevants à mon niveau parce que j'ai été plusieurs fois finaliste, hein, j'ai terminé cinquième aux Jeux de Londres, j'ai terminé deux fois quatrième aux Jeux de Rio, j'ai terminé trois fois cinquième aux Jeux de Tokyo, donc toujours très bien placé mais jamais... jamais sur la boîte, comme on dit.
Et, ouais, on revient sans médaille, on a envie de ramener la médaille.
Et en fait, rien qu'une médaille de bronze, j'aurais été l'homme le plus heureux aux Jeux Paralympiques de Paris. Mais voilà, l'histoire s'est terminée différemment parce que je termine avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Non, ça a été un parcours qui n'a pas été obligatoirement très simple, mais ça n'a jamais été une quête absolue de faire une médaille aux Jeux ou d'être champion paralympique. Je suis un passionné de sport, je suis un passionné par le haut niveau, ça m'a toujours plu. Et si, en effet, j'ai rencontré des difficultés au sortir des Jeux en me disant... Bon, voilà, je suis déçu. Évidemment, il y a des déceptions, des frustrations. On est là pour gagner. Quand on est athlète de haut niveau, on est vraiment là pour gagner. On se donne un maximum. Ça n'a pas été une fin en soi parce que j'ai tellement d'autres choses dans ma vie que voilà, j'arrivais à rebondir très, très rapidement, en général, après les Jeux. C'est peut-être ça aussi qui a fait ma force et qui m'a permis de tenir aussi longtemps.
Et votre force, ça a été d'être là, le jour J, le plus beau moment que vous pouviez imaginer, c'est-à-dire de gagner en France, à Paris, devant vos spectateurs, vos amis. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous, est-ce que, avec le recul, cette finale, comment vous l'avez vécue ?
Pour moi, il y a vraiment deux finales. Le moment le plus incroyable pour moi, ça a été quand même la médaille d'argent. Pourquoi ? Parce que c'était ma première médaille aux Jeux Paralympiques. Et je dirais que c'était celle qui était la plus émouvante pour moi. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me cacher au niveau des médias. Voilà, j'étais en pleurs tellement j'étais ému par cette joie incroyable de pouvoir monter sur le podium. Donc je dirais que celle-là, elle a été dingue. Et puis après, en effet, la deuxième finale qui avait lieu deux jours après, qui est dans une position où je n'ai jamais été champion du monde. Une position où
parce que ce n'est pas exactement la même distance, racontez.
Non,
c'est quoi la différence sur les deux finales ?
Alors on a deux distances à la carabine, 10 mètres et 50 mètres. 10 mètres avec une carabine air comprimée, 50 mètres avec une 22 long rifle.
Et, je précise que vous êtes venu sans carabine.
Oui, je suis venu sans armes ici.
C'est la sécurité.
Et à 10 mètres, on a deux disciplines possibles. La position qu'on dit debout, alors je vous rassure, on n'est pas debout, mais en gros, les coudes ne sont pas posés sur une tablette, et la position dite couchée, où les coudes sont posés sur une tablette. Et j'ai été double champion du monde en 10 mètres debout et à 50 mètres deux années de suite en 2022 et 2023, mais en couché 10 mètres, je n'ai jamais été champion du monde, j'ai rarement remporté des compétitions au niveau international.
Mais pourquoi c'est si différent ?
Parce qu'il y a une densité en termes d'athlètes, on est quasiment 20 athlètes à pouvoir être champion du monde ou champion paralympique, alors que dans les autres disciplines, en général, on est 7-8 à pouvoir gagner une compétition. Mais c'est une compétition que j'affectionne également. Et finalement, j'ai remporté la compétition là où j'étais le moins attendu dans cette discipline 10 mètres couchés.
Donc vous arrivez 10 mètres couchés et vous êtes libéré ?
Alors déjà, j'arrive, je termine, je suis quasiment à deux doigts de ne pas sortir des qualifications. Je suis 7e, 8e, 9e sur la fin de mon match. Et je rentre 7e en finale. Il faut être dans les 8 premiers pour pouvoir rentrer dans la finale. Et puis là, j'échange avec mon entraîneur et je lui dis, écoute, c'est plutôt pas mal, 7e. Je rentre dans la finale, c'était l'objectif. Hein. Maintenant, tout va jouer maintenant. Ce n'est pas du tout important de terminer premier ou 7e des qualifications. Tu vas voir, ça va super bien se passer en finale. Et donc, on rentre en finale. On est dans un stand que j'affectionne particulièrement, qui est le stand de tir à Châteauroux, qui est un stand dans lequel on s'entraîne depuis 6-7 ans. Et puis surtout, c'est assez intime. Il y a 800 personnes seulement dans les tribunes, dans le stand final. C'est le maximum de place. Et j'ai toute ma famille qui est derrière, tous mes amis qui sont derrière. Il y a une ambiance de dingue, mais je fais complètement abstraction de cette ambiance-là, puisque je suis sur le pas de tir pour pouvoir être performant. Et on sait que le tir, c'est vraiment une discipline de concentration. Donc je suis dans mon monde et en même temps, voilà, je sais qu'il y a du monde autour de moi et qui me suit et qui me soutient. Et puis là, on commence la finale. On est, on va dire, très proche entre le Brésilien et moi sur les deux premiers tiers de la finale. Et puis, je tombe dans un moment un petit peu spécial, un peu à part, un moment suspendu que j'appelle un peu un moment de grâce. Et j'ai vraiment... J'arrive pas aujourd'hui avec du recul à me rappeler quasiment des 7 plombs de mon dernier tiers de la finale. Et en fait, j'ai jamais tiré aussi bien de ma vie que sur ces 7 plombs-là qui sont absolument incroyables. Et en fait, je réalise au dernier plomb que je suis loin devant le Brésilien. Et là, par contre, pour le coup, le 8e plomb, enfin le dernier plomb de ma finale est un peu moins bien parce que je pense que j'atterris un petit peu à ce moment-là.
Mais est-ce que là, vous vous dites, vous parlez de grâce,
pensez que le Seigneur, il a choisi son vainqueur.
Dans le tir, souvent, on parle de flow. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise. Moi, je parle de grâce. Je ne pense pas que le Seigneur ait choisi du tout son vainqueur. À titre personnel, je pense que je savais que j'étais accompagné. J'étais accompagné, évidemment, par le Seigneur. J'étais accompagné par la Vierge Marie parce que je prie beaucoup, non pas pour gagner, mais je prie beaucoup pour me donner la force. Et je sais que cette force, je l'ai toujours eue dans tout ce que j'ai pu entreprendre. Même s'il y a des moments qui ont été plus ou moins difficiles, j'ai toujours eu cette force-là en moi. Et donc, je savais que j'étais accompagné. Mais c'est pas le Seigneur qui s'est dit « Allez, je choisis mon vainqueur, ça va être Tanguy ou ça va être le Brésilien ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, je savais que qu'il était présent et qu'il était avec moi.
Petite question, quand vous êtes sur le bas de tir et qu'il y a ces secondes de juste avant de tirer, qu'est-ce qui se passe dans la tête ?
Il se passe pas grand-chose. C'est un moment, chez moi, en fait, je ne réfléchis absolument pas. J'évite de me questionner, j'évite de penser à mon tir, j'évite de penser au public qui est devant moi. Vraiment, je me mets dans une sorte de bulle de concentration où je suis complètement dans un autre monde quelque part pendant 30 secondes, pendant 45 secondes, justement pour absolument pas penser au tir et à la performance.
Qu'est-ce qui se passe quand la compétition se termine et que vous savez que vous êtes champion paralympique ?
Alors déjà, cette victoire-là, elle est très intérieure. C'est-à-dire que on voit un peu quand on regarde un peu les images à la télé où on me voit juste souffler, on me voit juste un peu serrer les mains. Et je pense que c'est une victoire très personnelle. Et je crois que je me rends compte à ce moment-là de quelque chose d'incroyable. J'ai réussi à gagner les Jeux paralympiques et c'est une joie très forte. Mais on est dans une discipline évidemment de très intérieure et finalement, ma joie reste également très, très intime.
On a un petit cadeau pour vous. Nicolas Baudin a retrouvé une Marseillaise. Je regarde et je vois de l'émotion.
Mais parce que là, je suis en train de visualiser le moment où je suis monté sur la plus haute marche du podium, où j'avais du mal à contenir mes larmes. Et donc oui, là, je revis ce moment qui était absolument incroyable, ce moment très fort, très intense, d'avoir la Marseillaise. En fait, c'est tous les sportifs de haut niveau, quand ils sont aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, veulent juste entendre la Marseillaise, parce que ça veut dire qu'ils sont sur la plus haute marche du podium. Et voilà, quelque part, c'était un bel aboutissement, en tout cas, par rapport à ma carrière sportive.
Oui, l'aboutissement aussi qui s'est poursuivi avec le drapeau tricolore. Vous avez porté porte-drapeau sur la cérémonie de clôture. C'est incroyable. C'est un des plus bel honneur qu'on peut avoir quand on est sportif.
Oui, c'est ça. On peut vraiment parler d'honneur. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, à ce qu'on me demande d'être porte-drapeau. Je pense que c'est lié peut-être à deux choses. Évidemment, les résultats, parce que cette médaille d'or, cette médaille d'argent en paratir, c'est quand même une très, très belle performance. Mais il y a d'autres athlètes qui ont été plus médaillés que moi sur les Jeux paralympiques et qui pouvaient évidemment être porte-drapeau. Et puis, je pense qu'il y avait peut-être ce côté persévérance, ce côté abnégation. 5 Jeux paralympiques sans faire de médaille. Et puis, au 6e jeu à Paris, pouvoir remporter 2 belles médailles. Donc, je pense que c'est un petit peu lié à ça.
Vous avez vu le président de la République ?
Je l'ai croisé, du coup, je l'ai vu au moment où il y avait la cérémonie de remise des insignes
de la Légion d'honneur.
De la Légion d'honneur, exactement.
Alors, qui vous l'a remise
C'est Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du Comité paralympique et sportif français.
Ouais. On a une musique qu'on a entendue qui est la plus belle, bien sûr, c'est la Marseillaise, mais est-ce qu'il y a une autre musique qui vous touche ? Est-ce que vous avez peut-être, dans vos moments où vous voulez vous calmer, vous voulez peut-être vous ressourcer, peut-être vous tourner vers le Seigneur, un chant, quelque chose ?
Non, j'ai pas vraiment de chant spécifique. Après, je suis très porté. J'ai une phrase que j'ai toujours retenue de maman qui est chanter, c'est prier 2 fois. Je l'ai toujours gardé en moi. Et donc, j'ai plein de chants comme ça, que j'affectionne et qui sont très importants pour moi, que je peux écouter dans la voiture, que je peux écouter comme ça au quotidien.
C'est une bonne technique, ça.
C'est une bonne technique, tout à fait.
On a eu des frissons en écoutant de nouveau cette Marseillaise. On vous a revu sur ce podium avec cette médaille d'or olympique. Elle est où, cette médaille d'or ? Vous n'êtes pas venu avec ?
Non, la médaille d'or, elle est chez moi. Je ne me promène jamais avec. Elle est chez moi, elle est très bien là où elle est, mais je ne suis pas très matérialiste. Donc voilà, je n'ai pas ce besoin, en tout cas, de me balader avec ma médaille.
Nous, on est très matérialiste avec Oli Games. Non, je rigole. Et on a juste des bougies et on aimerait bien vous en choisissiez une autre. La bleue. Mais la c'est bleue. Marrant parce que vous prenez pas la bleue en premier. Il y a des sportifs qui automatiquement disent « Moi, je veux la bleue parce que j'ai porté le maillot bleu ».
Ah oui, non, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout pensé à ça, en fait. Mais pourtant, c'est une couleur que j'aime beaucoup, le bleu. Oui, en fait, je pense que j'ai fait le plus simple possible, donc je l'ai fait quasiment dans l'ordre.
Mais oui, c'est vrai.
Donc c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Alors ça, franchement, elle n'est pas évidente, celle-là.
Non, elle n'est pas évidente, mais là, je peux y faire un parallèle avec peut-être le handicap, parce que je pense que c'est le handicap, quelque part, qui a un peu forgé mon caractère, forgé ma personnalité. C'est finalement, ce handicap, j'en ai fait une force, je le dis très souvent, et c'est cette force voilà, qui m'a permis d'être entrepreneur, d'être athlète de haut niveau, d'avoir la vie incroyable que j'ai pu avoir. Donc oui, ça me parle évidemment complètement.
C'est un bon message hein, que vous donnez sur Europe 1, que vous délivrez, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Il y a sans doute des personnes en situation de handicap qui peuvent se retrouver moralement affectées, et on les comprend, mais alors largement. Combien ça peut être difficile de ne pas avoir son corps en mouvement. Nous qui sommes avec Holy Games, vraiment des amoureux du sport, on aime se mettre vraiment en mouvement, effectivement. Ça, ce que vous dites, c'est important. Hein. Ça fait partie aussi de votre vocation, d'une certaine façon, je pense, non ?
Oui, alors... J'ai jamais fait du sport ou entrepris pour dépasser mon handicap. Ça n'a jamais été ma manière de voir les choses. Néanmoins, voilà, le handicap fait quand même partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai que je reviens sur un élément pour moi qui est vraiment primordial, qui est la différence entre un handicap de naissance, où on vit avec toute sa vie, et un handicap à la suite d'un accident, où c'est vraiment beaucoup plus compliqué, en tout cas, de pouvoir rebondir. Et je pense que cette phrase-là, peut-être, est encore plus importante pour quelqu'un qui a subi un accident et qui doit justement dépasser ce handicap, peut-être en pratiquant un sport, peut-être en s'insérant dans la vie professionnelle. Et voilà, je trouve que c'est assez parlant et assez beau.
Tanguy de la Forêt, vous avez 47 ans et vous êtes marié à Gaëlle.
Tout à fait.
Merveilleux.
Ouais, merveilleux.
Félicitations.
Oui. Merci.
Qui a été la première personne à lancer la flèche de Cupidon ? C'est-à-dire la flèche qui va vous permettre d'enflammer vos cœurs ?
Je pense que c'est tous les deux. En fait, on s'est aperçu sur une compétition de tir.
Parce qu'elle fait du tir, hein,
fait du tir également. Tir au pistolet pour elle. Et on s'est...
Ah, vous êtes complémentaires.
Exactement. Et heureusement qu'on n'est pas tous les deux dans la même. On ne tire pas tous les deux à la carabine parce qu'on serait dans la même discipline. Ce serait un peu gênant sur le plan international. Non, on s'est juste croisés sur une compétition sans se parler. Et je pense qu'il y a eu un petit quelque chose à ce moment-là. Et on s'est revus sur un stage d'équipe de France 2 mois après. Et voilà, il s'est passé quelque chose entre nous.
C'est absolument génial. Et donc, votre épouse a un autre handicap. Comment elle vit justement aussi ces difficultés avec un corps meurtri.
Mais justement, c'est pour ça que j'en parle très librement de cette différence entre un handicap de naissance et un handicap suite à un accident, puisque Gaëlle a subi un accident à l'âge de 24 ans. Donc, elle est passée justement d'un état où elle était très sportive, très autonome, justement à ce moment très difficile à la suite d'un accident où il a fallu qu'elle accepte son handicap, et elle a su en fait accepter son handicap et puis surtout le dépasser. Le dépasser comment ? Le dépasser grâce au sport, en pratiquant d'abord de l'aviron, mais également en se mettant au tir. Et voilà, je trouve que c'est une magnifique histoire, en tout cas, ce qu'elle peut raconter aujourd'hui à travers son parcours.
C'est magnifique, on l'embrasse très fort, Gaëlle, et vous vous aidez mutuellement. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un duo de choc.
Nous sommes très complémentaires. Gaëlle m'aide énormément sur le plan physique. Moi, je vais essayer de l'accompagner peut-être sur d'autres points, comme le côté administratif, comme le côté mental, ou comme le côté également gestion du stress. On s'apporte beaucoup également pour le tir, donc on est très, très complémentaires.
La naissance de votre enfant, est-ce que c'est le plus beau moment de votre vie ?
Ah oui, je crois qu'on peut le dire. En plus, il est très récent, puisque voilà, notre petit garçon Léo est né en janvier de cette année. C'est un moment qui est absolument incroyable, qui dépasse tous les moments que j'ai pu vivre, bien au-delà évidemment de tout ce qui est lié au sport, même si je garde évidemment en mémoire ces médailles, mais la naissance d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, et on en parle évidemment au quotidien avec Gaëlle, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que voilà, c'est un moment incroyable. Mais sincèrement, on m'aurait dit, il y a encore une dizaine d'années, Tanguy, tu vas te marier, Tanguy, tu auras un enfant, jamais je l'aurais cru. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en parlant des grâces, mais en fait, je me rends vraiment compte que j'ai toujours été... Voilà, j'ai toujours obtenu tellement de grâce et depuis mon enfance avec cette vie avec mes parents, avec mon frère, ma sœur, avec mes amis, avec le côté entrepreneurial, le côté sportif. Gaëlle que j'ai rencontrée en 2017, parce qu'en 2017, je devais arrêter le tir. J'avais choisi d'arrêter le tir. Et finalement, c'est elle qui m'a remis un peu le pied à l'étrier. Et puis cet enfant, évidemment, qui est absolument, voilà, qui est une joie énorme.
Vous voyagez beaucoup, comment vous faites ?
Alors, on voyage pas mal. Alors, on a beaucoup voyagé par le sport de haut niveau. Pour ma part, voilà, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière d'athlète. Gaëlle continue, elle, sa carrière de sportive de haut niveau. Et on voyage beaucoup sur le plan national parce qu'en effet, on habite en Haute-Savoie et que mes entreprises, notamment, sont basées en Bretagne. Ma famille est en Bretagne. Et donc, on fait très souvent cet aller-retour 74-35.
Alors, j'ai une carte face à moi, Tanguy de la Forêt, sur Europe 1, dans cette émission Les Athlètes de Dieu. Quelle figure de saint vous parle et pourquoi ?
Je vais dire Saint Jean-Paul II, parce que j'ai eu cette chance incroyable de le rencontrer, je pense... que je devais avoir 8-9 ans. Et,
vous avez rencontré Jean-Paul II.
Oui, j'ai rencontré Jean-Paul II à 8-9 ans à Rome. Il y avait la canonisation de Sœur Marie-Marguerite d'Youville avec une audience privée. Alors, il y avait 5000 personnes dans cette audience privée.
Alors, excusez-moi, je ne connais pas cette sœur.
Non, mais je ne veux pas rentrer dans le détail obligatoirement de la vie sainte de Sœur Marie-Marguerite d'Youville, mais en tout cas, on
Sainte a Sainte Marie-Marguerite, moi, j'en connais parenté. Une, mais elle apparaît de Monial, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même.
Non, ce n'est pas la même.
D'accord.
En tout cas, un petit lien de parenté qui fait qu'on a été justement qu'on nous a proposé de venir à sa canonisation à Rome. Et à ce moment-là, quand vous êtes en situation de handicap et que vous êtes à une célébration ou que vous êtes comme ça à un événement au Vatican, ben, en fauteuil roulant, vous êtes devant. Et le pape, en général, vient vous voir. Et là, moi, j'avais 8-9 ans et on a échangé pendant 30 secondes. Il m'a demandé ce que je faisais. Et ce moment où il est venu me parler, c'était un moment très, très fort, dont je me rappellerai évidemment toute ma vie.
30 secondes, c'est très long. Hein. 30 secondes avec un pape, c'est un privilège immense. Hein.
Mais, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'avec du recul, il m'a quand même posé des questions en me demandant en français.
Alors voilà, comment ça se passe
Ben, il m'a tout simplement demandé ce que je faisais, comme à l'époque, est-ce que j'allais à l'école, voilà, et puis où est-ce que j'habitais, et voilà. Et puis j'ai répondu, donc voilà. On est sur ces 30 secondes, mais qui étaient très très fortes. Déjà, le premier moment très fort, c'était au moment où je suis rentré et que je l'ai vu pour la première fois. Et là, j'ai vraiment un gros blanc. J'avais l'impression de penser plus à rien en le voyant. Donc, un moment qui m'a marqué parce que j'ai toujours ce... Je me rappellerai toute ma vie, en fait, de ce moment où je suis rentré et j'ai vu Jean-Paul II devant moi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue, en fait, ce que je vis actuellement. Et ce moment-là, je l'ai gardé toute ma vie.
Mais pourquoi c'est si dingue que ça ? C'est pas un pape comme un autre ?
En fait, c'est dingue parce que déjà, c'est le premier pape que je voyais, mais c'est surtout qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé en moi. Ça m'a vraiment pris quelque part. Ce que j'ai ressenti et ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le tir, différemment, mais je l'ai ressenti à ce moment-là, en le voyant, parce que j'ai vraiment eu un blackout pendant 30 secondes. Je suis incapable de me rappeler. Je me rappelle juste que c'était un moment complètement à part et suspendu à ce moment-là.
Est-ce que vous vous souvenez de son visage, de son regard ?
Je me rappelle très bien, et puis surtout j'ai une photo de lui avec moi, et donc évidemment voilà, j'arrive très bien à me rappeler en tout cas de ce moment très fort.
Saint Jean-Paul II, vous le priez, c'est-à-dire que vous, dans le secret de votre cœur, vous lui dites Jean-Paul II, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides dans tel ou tel moment de votre vie.
Oui, comme beaucoup d'autres saints que je vais prier. Mais oui, c'est certain que voilà, il m'a toujours marqué. J'ai même ce petit rappel quand je travaillais avec des amis qui me disaient voilà, on n'est pas du tout croyants, mais quand Jean-Paul II est mort, en fait, ils nous ont dit en fait, il nous a marqué également. Et voilà, ça, c'est toute la beauté, on va dire, de pouvoir marquer en tant que pape, comme ça, toute une génération.
Et l'expression « athlète de Dieu » vient justement de Jean-Paul II, qui était un athlète de Dieu. C'était le cardinal Marty, je crois, à Paris, au Parc des Princes, qui l'avait surnommé ainsi. Et ce sera aussi votre surnom, hein, Tanguy Laforêt. « Athlète de Dieu » sur Europe 1. On a vu que vous avez... Et une vie très riche, notamment sur le pâtir, mais également de manière familiale avec la naissance de votre enfant, votre mariage avec Gaëlle, et puis ensuite avec la création d'entreprise. Et ça sera le thème de cette partie, de cette dernière partie. Mais avant, il y a une autre et dernière bougie à allumer virtuellement. C'est une bougie qui est jaune.
Puisez votre énergie dans le Seigneur.
Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez une énergie complètement folle. Hein.
Merci.
Ça vient du Seigneur aussi ?
Oui, bah, probablement. Ça vient de tout ce que j'ai vécu. Et puis quand je lis « Puisez votre énergie dans le Seigneur », ça me fait tout de suite penser à la prière. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que je vais vraiment avoir cet échange avec Dieu, c'est à ce moment-là que je vais le remercier. C'est à ce moment-là que je vais prier pour des saints, enfin pour des saints, je vais plutôt demander à des saints de prier pour nous, pour tout notre entourage, pour nos familles, pour ceux qui sont en difficulté. C'est à ce moment-là aussi que je vais leur demander de me donner la force de me battre. C'est un moment qui est vraiment particulier pour moi. La prière, c'est vraiment un moment très très fort. J'en ai besoin. Et si je ne le fais pas voilà, au quotidien, c'est quelque chose vraiment qui va me manquer. Donc j'ai vraiment ce moment très fort et très intense avec Dieu, avec la Vierge Marie, voilà, qui est très importante également pour moi, notamment parce que j'ai eu cette chance aussi très jeune de pouvoir faire le pèlerinage du Rosaire à Lourdes 6 années de suite en étant enfant, et c'était un moment très particulier.
Ça tombe bien, vous me lancez une perche, quel est le lieu qui vous touche le plus ?
Ben voilà, c'est Lourdes. C'est Lourdes, c'est le sanctuaire à Lourdes, parce que j'étais évidemment déjà en situation de handicap quand j'y suis allé pour la première fois, je pense à l'âge de 4 ans, que j'ai fait 6 années de pèlerinage du Rosaire là-bas. Et en fait, j'ai découvert que d'autres personnes étaient en situation de handicap, j'ai découvert qu'on pouvait rigoler, on pouvait prier, on pouvait voir plein de choses et faire plein de choses en situation de handicap. Je pense que c'est un moment qui m'a révélé. À chaque fois, j'attendais qu'une seule chose, c'était cette semaine de pèlerinage au Rosaire. Et voilà, c'était un moment très particulier. J'en parle très souvent de Lourdes.
Et Lourdes, vous avez vécu ce que vivent les malades ? Est-ce que vous êtes allé dans les piscines ? Est-ce que vous êtes allé dire le chapelet devant la grotte ? Assister aux messes ?
Bien sûr.
Participer aux messes ?
Je faisais tout ça, hein, les piscines très froides, mais qui étaient un moment évidemment très très fort. Et puis j'ai plein d'anecdotes, notamment, voilà, il y avait des petites carrioles bleues qu'on voit tous à Lourdes, en général, qui étaient tirées par des brancardiers. Et en fait, nous, enfants, on prenait le guidon et en fait, on se faisait pousser dans les rues de Lourdes et dans le sanctuaire. Et on faisait des courses avec mes copains qui étaient également en situation de handicap. Voilà, c'est plein de petits moments et d'anecdotes qui me sont chers.
Vous avez gagné ou pas cette course ?
En tout cas, j'ai tout fait pour la gagner. Après, je ne me rappelle plus si je l'ai gagnée toute.
Ça vient peut-être de là, votre esprit de compétition. La Vierge Marie, c'est une figure importante. On a parlé de Jean-Paul II, mais c'est intéressant parce que la Vierge, c'est une maman et vous avez besoin aussi parfois de vous sentir réconforté. Une maman, ça réconforte. Une maman, ça apaise.
Mais la Vierge Marie, c'est la maman de tous les hommes. C'est la maman, voilà, c'est évidemment très important. Moi, j'ai eu de la chance d'être né voilà, dans ma famille, d'avoir été aussi bien accompagné, aussi bien éduqué par mes parents, avec la présence de maman très jeune qui s'est démenée pour que je puisse intégrer le milieu scolaire ordinaire, qui s'est démenée pour que je puisse faire du sport, qui s'est démenée tout simplement pour me permettre d'être le plus autonome possible dans ma vie. Et avec mon père, ça a été presque un peu différent. Il était présent, mais il travaillait, il était beaucoup en déplacement. Et en fait, ce moment-là de présence de mon père, je l'ai eu peut-être beaucoup plus tard, au moment où il a vu que j'étais autonome et que je pouvais me débrouiller tout seul. Et ça a créé quelque chose entre nous qui était assez incroyable également. Mais ça arrivait plus tard, mais j'ai énormément de chance d'être né dans cette famille. Et évidemment que le rôle de la maman est évidemment primordial.
Elle s'appelle comment, votre maman ?
Rose. Rose Esther.
C'est beau, Rose. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit cadeau ? Vous parlez de la Vierge Marie. Est-ce que vous pouvez prier le « Je vous salue Marie ». Est-ce qu'on peut le faire ?
Bien sûr.
Alors allons-y.
Est-ce qu'on peut le faire en chantant ou pas ?
Absolument.
Est-ce que ça marcherait quand même avec
le micro ?
D'accord. « Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.
Le « Je vous salue Marie » qui est très émouvant. Mais il y a une autre figure aussi qui est importante et peut-être qui a été... pas déterminante, mais qui vous a inspiré pour créer des entreprises, c'est Saint-Joseph. Parce qu'il y a deux entreprises que vous avez créées, notamment Défi RH, on va en parler. Est-ce que Saint-Joseph, qui est une figure peut-être un petit peu moins emblématique, en tout cas on n'a pas toujours forcément l'idée de s'appuyer sur lui ou de le prier, est-ce que c'est quelqu'un qui vous plaît ?
Oui, Saint-Joseph, ça a quand même été évidemment... Il a été incroyablement important pour Jésus et finalement ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec le rôle de la maman et le rôle de mon père qui a été très fort également, notamment dans ce côté entrepreneuriale, puisque mon père a entrepris et il m'a donné quelque part, il m'a légué cette fibre entrepreneuriale. J'ai travaillé pendant 5 années dans le monde, dans le milieu de l'automobile, dans le marketing. Et puis, en parallèle de cette activité salariale, avec ma sœur, on voyait qu'il y avait une loi qui arrivait sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Et en 2006, on a décidé de créer ensemble un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans l'embauche de travailleurs en situation de handicap.
Wow. Et donc, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était compliqué d'avoir du boulot quand on était en situation de handicap ?
Oui, alors moi, je n'ai pas eu trop de difficultés, encore qu'on m'avait justement...
Est-ce que vous avez fait quelle étude ?
J'ai fait un bac plus 5 en marketing.
Ah oui, quand même. Où ça ?
À la Sorbonne.
Ah, donc à Paris, vous étiez à Paris ?
À Paris, pour ma dernière année d'études. Tout
d'accord.
À
et mais pourquoi vous créez cette entreprise ?
Et moi, j'avais vraiment envie d'entreprendre. Et puis Patricia, ma sœur, elle était travaillait dans le recrutement. Et puis on s'est retrouvés à un moment donné pour aller chez des amis en train. Et puis on a lu un article justement sur cette loi du 11 février 2005 qui imposait à les entreprises d'avoir 6% de travailleurs en situation de handicap dans leur effectif. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, on se lance dans l'aventure tous les deux, on crée le cabinet de recrutement. Et on s'est associé avec Xavier, un très bon ami, qui nous a rejoint dans l'aventure pour pouvoir créer ce cabinet de recrutement.
Ça marche ?
Ça marche. Le cabinet, il est toujours en activité. Nous avons 8 collaborateurs au sein de ce cabinet et nous travaillons pour une quarantaine d'entreprises françaises pour recruter des travailleurs en situation de handicap, pour former ou sensibiliser les managers et les collaborateurs des entreprises.
Vous êtes en situation de handicap, vous écoutez cette émission, vous avez envie de trouver du boulot. Il faut faire comment ?
Il faut regarder sur Internet, il faut se rendre sur le site Défi RH, où vous pouvez évidemment voir toutes les offres des entreprises, de nos entreprises clientes, et derrière pouvoir postuler et échanger, pourquoi pas, avec en effet un consultant du cabinet.
Est-ce que la vision du handicap évolue grâce aux Jeux Paralympiques, grâce aux efforts qui sont faits au niveau de l'État pour mettre en valeur toutes les magnifiques initiatives et capacités et toutes les personnes qui ont cette situation, qui sont en situation de handicap et qui sont absolument merveilleuses, dont vous faites partie, Tanguy.
Oui, là, on peut faire, là, pour le coup, peut-être plus qu'un parallèle. Moi, je vois vraiment l'évolution qu'il y a pu avoir entre 2004 et 2024, Jeux paralympiques de Paris. Il y a encore une vingtaine d'années, on parlait de personnes en situation de handicap qui faisaient du sport ou qui faisaient du sport de haut niveau. Aujourd'hui, on parle d'athlètes paralympiques en situation de handicap. Et là, vous voyez que ça s'inverse au niveau des termes. La situation de handicap, c'est une spécificité. La chose la plus importante chez ces personnes-là, c'est le fait qu'elles soient sportives de haut niveau. Et donc, on voit cette évolution qui est incroyable. Et cette évolution, j'ai très envie, évidemment, de qu'elle soit identique dans le monde professionnel et qu'on parle non pas de personnes en situation de handicap qui travaillent, mais tout simplement de personnes compétentes qui ont une spécificité qui est le handicap.
Ah, c'est magnifique, mais vous avez tellement raison, Tanguy de la Forêt. Il y a une autre entreprise que vous avez créée, c'est Home Diffusion. Alors, ça n'a rien à voir, je crois.
Hein. Non, Home Diffusion, ça n'a absolument rien à voir. C'est une entreprise que j'ai reprise, qui est en effet une entreprise que mon père a créée justement en 1988, qui est spécialisée dans la vente d'objets publicitaires et la logistique associée. Et cette fois-ci, encore dans l'entrepreneuriat familial, je me suis associé avec Arnaud, mon frère.
Ah, bien.
Et on a repris cette entreprise en 2011 avec un autre ami, Thomas, cette fois-ci. Et c'est une activité qui est toujours en cours avec également une quinzaine de collaborateurs. Et on travaille sur tout ce qui est objet publicitaire pour le compte de nos clients.
Bon, ça, c'est super aussi. Pour revenir sur les Jeux paralympiques et les athlètes que vous connaissez bien, quel athlète vous marque particulièrement ? Alors, il y en a une, Aurélie Aubert, en boccia, qui était exceptionnelle, que j'ai rencontrée d'ailleurs. J'ai fait un reportage sur elle juste avant qu'elle ait son titre olympique.
Oui, Aurélie, je ne la connaissais pas du tout avant les Jeux paralympiques, mais je pense que peu de Français la connaissaient avant les Jeux et elle a remporté les Jeux paralympiques en boccia. Elle a fait quelque chose d'incroyable et surtout, on a vu une émotion tellement énorme
lorsqu'elle
a gagné. C'était incroyable. Tout le monde a encore cette image d'Aurélie gagnant les Jeux paralympiques. Et on a eu cette joie tous les deux de pouvoir être porte-drapeau à la cérémonie de clôture. C'était un moment très très fort. Donc j'ai appris un petit peu à la connaître justement dans les travées du Stade de France. C'est une très belle personne. Et voilà, on était très contents en tout cas de pouvoir faire ce cheminement ensemble.
Il y a également Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente. Vous êtes le vice-président du comité paralympique français.
Oui, Marie-Amélie, elle a été déjà une athlète incroyable, multimédaillée d'or aux Jeux paralympiques. Et puis, elle a pris cette fonction de présidente du comité paralympique depuis 2018. Elle remplit pleinement sa mission, toujours avec un seul objectif, c'est de favoriser la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap, que ce soit dans le développement du sport, donc pour n'importe quelle personne en situation de handicap et pour le sport de haut niveau. Et franchement, on peut dire que, en tout cas, la pratique s'améliore là-dessus et elle y est pour quelque chose, c'est certain.
Alors, Tanguy de la Forêt, j'ai un évangile, le Nouveau Testament des sportifs. Quel est le passage de l'évangile qui vous plaît le plus ?
Ce qui me marque le plus, c'est la phrase « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. »
Je valide. Je trouve que cette phrase est merveilleuse. Merci Tanguy de la Forêt. Et c'est vrai que vous êtes toujours joyeux. Vous avez le sourire du début jusqu'à la fin. Il y a eu quelques larmes au début de cette émission avec la Marseillaise.
Des larmes de joie.
Des larmes de joie, c'est vrai. Des larmes de tristesse de temps en temps, mais surtout des larmes de joie, je crois.
Des larmes de tristesse, j'en ai très peu eu. En tout cas, elles ne m'ont pas vraiment marqué. Même quand j'étais jeune, j'ai évidemment été triste parce que je voyais des choses que je ne pouvais pas faire. Mais les larmes de joie sont tellement plus fortes et tellement plus intenses que c'est celles qui me marquent le plus.
Et Jean-Paul II disait quelque chose d'extraordinaire. C'est le saint que vous avez bien choisi pour vous guider tout au long de votre vie. Le sport, c'est la joie de la vie. Saint Jean-Paul II.
Je ne peux pas aller à l'encontre de ça, ce n'est pas possible. Le sport m'a rempli de bonheur. Le sport m'a permis de rencontrer Gaël et d'avoir aujourd'hui un petit garçon. Donc voilà, le sport, c'est une vie en communauté. C'est un peu comme, évidemment, à l'Église, cette communauté qui est extrêmement importante pour tous les croyants. Finalement, on la retrouve dans le sport et c'est ça aussi qui nous fait vibrer quand on est athlète.
Tanguy de la Forêt, malheureusement, l'émission se termine. Mais le flambeau est là et on aimerait que vous puissiez le transmettre à un autre sportif. Est-ce que vous avez une idée d'un sportif ou d'un para-athlète éventuellement que vous aimeriez avoir dans cette émission ou tout simplement peut-être une phrase à transmettre aux athlètes qui sont venus dans cette émission ?
Non, là, peut-être, je pense qu'il y a encore 7-8 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais abordé la foi en étant athlète de haut niveau. Et finalement, j'ai énormément appris en déclarant un peu ma foi, peut-être un peu plus publiquement avant les Jeux. Ça m'a énormément porté sur les Jeux et voilà, je suis éternellement reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers la Vierge Marie et envers tous mes proches. Donc voilà.
C'est un très très beau moment. Merci Tanguy de la Forêt d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, d'Holy Games pour Athlète de Dieu, car vous êtes un athlète de Dieu.
Merci Cyril.